La première épître de Paul à Timothée. Nous allons lire au chapitre 1er les versets 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voici l'un des témoignages de l'apôtre Paul. Je dis l'un parce que dans d'autres épîtres, il y en a d'autres touchant à d'autres aspects de sa vie et notamment le témoignage de sa conversion. Il dit ici que l'évangile lui a été confié, c'est ce qui était dit au verset 11 précédent, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Et Jésus-Christ, en effet, avait établi dans le ministère l'apôtre Paul, celui que nous appelons l'apôtre Paul, Saul de Tarse, le jugeant fidèle. Et l'apôtre nous dit que ce jugement de fidélité du Seigneur Jésus s'est concrétisé dans le fait qu'il l'a établi dans le ministère, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. La fidélité et la foi, vous savez que en grec le mot est le même, ne constituent pas un mérite. Et cette fidélité consiste tout simplement à garder la foi. Avec la fidélité, la fin d'une expérience, la fin d'une vie chrétienne doit être comme le commencement de cette vie. La fin doit être comme le commencement. Il ne doit pas y avoir de fléchissement, de régression. La fidélité, donc, ne constitue pas un mérite, elle est la manifestation constante de la foi. C'est très beau la foi, on en parle souvent, mais chers amis, il faut penser que si nous parlons de la foi, de la nôtre, eh bien, il faut envisager une foi qui subsiste, une foi qui se maintienne. À quoi servirait une foi qui aurait peut-être été vive pendant un temps, et puis qui sombrerait, ou alors une foi, j'ai vu le cas, n'est-ce pas, une foi qui ne s'exerçait que par des élans, à certains moments, des élans de foi, capables de faire toutes sortes de choses, et puis ça retombait. La fidélité, donc, c'est une foi qui va se maintenir, et le maintien de cette foi va s'attester par les œuvres de la foi, bien entendu. Les œuvres de la foi, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu et une conduite loyale envers Dieu. La fidélité à Dieu implique la fidélité à sa parole. Je dis cela parce que c'est à tort que d'aucuns pourraient dire « Moi, je suis fidèle à Dieu, je suis fidèle ». Si tu es fidèle à Dieu, tu seras fidèle à sa parole. Moi, je ne vois pas que la fidélité à Dieu puisse être avancée si l'on n'a pas souci d'être fidèle à toute la parole de Dieu. Gardez ma parole. Voilà le mot d'ordre pressant du Seigneur Jésus-Christ. Dire que l'on est fidèle ne comporte ni orgueil, ni prétention à un mérite, car la fidélité est en somme la norme de la vie chrétienne. Ce n'est pas une chose extraordinaire, exceptionnelle, c'est ce qu'on devrait constater dans toute vie appelée chrétienne. Et la miséricorde est amenée, la fidélité est amenée par la miséricorde que Dieu fait à son enfant. Consultons un verset dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, le verset 25, verset 25, 1 Corinthiens 7, 25. Pour ce qui est des vierges, le Seigneur n'a point d'ordre, je n'ai point d'ordre, pardon, du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. N'allons pas comprendre que la fidélité nous est donnée comme quelque chose dont nous serions habillés par le Seigneur, indépendamment de nous, et alors nous pourrions dire, n'est-ce pas, « Ah ben, je ne suis pas fidèle parce que le Seigneur m'a pas donné la fidélité. Que voulez-vous, il ne me l'a pas donné. » Et nous dégagerions entièrement notre responsabilité de la chose. Mais pas du tout, n'est-ce pas. Ce que Paul veut dire, c'est que, ayant reçu, lui, homme pécheur, comme il va le dire par la suite, ayant reçu la grande miséricorde de Dieu, toute la miséricorde, alors Dieu lui a donné d'être fidèle. L'on obtient, d'autre part, la miséricorde lorsqu'on a su s'humilier. Et encore ici, n'est-ce pas, l'apôtre Paul va s'humilier en rappelant ce qu'il était avant sa conversion. Donc, la fidélité est amenée par la miséricorde que Dieu a fait au pécheur, à l'homme pécheur, qui s'est repenti. Il m'a jugé fidèle, dit l'apôtre Paul, cela revient donc à dire, il a jugé suffisante mon humiliation pour me faire miséricorde et me donner d'être fidèle. Voilà, n'est-ce pas, comment les choses se présentent. Quelqu'un donc qui s'humilie, et cela nous l'avons dit sous d'autres formes, avec d'autres textes bibliques, quelqu'un qui est entré dans la vie chrétienne par une réelle repentance, vous voyez quelle est l'importance de cela, une réelle repentance, qui s'est humilié, qui n'a pas marchandé, qui n'a pas essayé de cacher quelque chose, de retirer, mais qui a tout mis au pied du Seigneur, au pied de la croix, eh bien celui-là va entrer dans une vie chrétienne solide. Celui-là va avoir une foi solide, et celui-là va être fidèle. Ben c'est le point de départ qui importe beaucoup, au point que si ce point de départ n'a pas été suffisant, eh bien il arrive souvent qu'au cours de la vie chrétienne, il faille revenir à une repentance en quelque sorte complémentaire, hein, qui va parfaire la première. Il est certain que l'exercice du ministère requiert par-dessus tout la fidélité. Il faut la fidélité dans la vie chrétienne de tous les membres de l'Église. Mais encore plus, pourrait-on dire, pour exercer un ministère. Mieux vaudrait un ministère sans grand développement, mais exercé fidèlement, qu'un ministère brillant et très développé auquel il manquerait à un certain moment la fidélité. Mieux vaut le ministère caché, peut-être modeste, simple, qui est fidèle, celui-là est bien supérieur. Après ce rappel de son établissement dans le ministère, Paul va aussitôt rappeler sa culpabilité devant Dieu avant sa conversion. Et il est difficile de dire beaucoup plus que ce que l'apôtre dit ici de son état avant d'avoir été touché par la grâce. Que dit-il en effet ? Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Blasphémateur, nous pourrions dire au passage ce que c'est que le blasphème. Blasphémer vient du terme grec blasphéméin, blasphémer. Paul, manifestement, en disant cela, ne s'accorde aucun ménagement. Un blasphémateur, c'est-à-dire quelqu'un qui proférait ou qui, par ses actes, se rendait coupable, souvent, de blasphème. Vraiment, c'est quelque chose, n'est-ce pas, d'assez grave. Il arrive souvent qu'un pécheur ait beaucoup de fautes, il reconnaît ses fautes, il reconnaît son état de péché, surtout dans une vie, par exemple, immorale, n'est-ce pas. Mais lui, c'était dans une vie de blasphème, c'est-à-dire qu'il atteignait Dieu, toujours. Celui qui était offensé, c'était essentiellement Dieu. Eh bien, le blasphème, c'est une atteinte portée à Dieu. Une atteinte portée directement à Dieu. Soit en parole, soit en acte, c'est aussi la profanation de ce qui est saint. Et par exemple, pour donner un exemple, l'indignité dans le culte, dont l'apôtre Paul même nous parle dans 1 Corinthiens, cette indignité dans le culte constituait un blasphème. Et de la part des membres de cette église, c'était véritablement quelque chose de grave. Heureusement, ils étaient encore insuffisamment éclairés là-dessus. Le blasphème apparaît encore dans l'usurpation des prérogatives de Dieu. Quelqu'un qui veut s'attribuer les prérogatives de Dieu, blasphème. Et par exemple, il y a un blasphème qui peut être très nettement caractérisé dans le fait de juger. De juger. Car l'épître de Jacques nous dit bien que le jugement appartient à Dieu seul. À Dieu seul. Parce que pour juger, il faut être législateur. Il faut pouvoir dire la loi. Or, personne ne peut la dire en dehors de Dieu. Par conséquent, si je me fais juge, comme le dit Jacques, n'est-ce pas, eh bien, alors, tu te mets à la place de Dieu. Juger, donc, devient blasphématoire. Les adversaires de Jésus, vous savez, l'avaient accusé de blasphème, en ce que, par exemple, Jésus se reconnaissait le pouvoir de pardonner les péchés. En ce que aussi il acceptait les marques de dévotion dues à Dieu seul. Par exemple, le jour de la venue de Jésus sur le petit Danannon à Jérusalem, eh bien, il y avait, vous savez, beaucoup de peuples qui l'accompagnaient, qui avaient mis des vêtements, des branchages sur le chemin, et des enfants qui criaient Hosanna au fils de David. Et les principaux sacrificateurs et les scribes alors étaient indignés de ce que les enfants criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Et ils dirent à Jésus, mais enfin, tu les laisses crier, tu les laisses faire, tu ne vas pas les empêcher de faire cela, parce que pour eux c'était un blasphème. Étant donné que Jésus laissait venir à lui des marques de dévotion, ou disons même d'adoration, de louange, n'est-ce pas, qui n'était dû qu'à Dieu seul. Il y a enfin un blasphème dont Jésus a parlé lui-même, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est la forme très grave, étant donné que ce blasphème constitue le péché qui ne peut jamais être pardonné et qui mène à la mort. Le seul péché, dit la Bible, qui mène à la mort, le seul, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et en l'occurrence, ce blasphème consistait à attribuer à Belzébul, c'est-à-dire au diable, ceux qui étaient véritablement de l'Esprit. Attention de ne pas dire nous-mêmes à la légère, « Oh, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est le diable. » Moi, je ne m'aventure pas, même si j'ai des doutes, n'est-ce pas, je ne m'aventure pas à dire « ça, c'est le diable hein. ». Je n'accepterai pas, bien sûr, comme œuvre du Saint-Esprit, n'importe quoi. Oh, ça non, surtout en ce moment. Hein. On me parle beaucoup de baptême dans le Saint-Esprit, j'ai beaucoup de réserves, beaucoup de réserves. Je ne reçois pas toutes les affirmations qu'on me donne là-dessus. Mais quand même, n'est-ce pas, ne disons pas, c'est le diable qui fait cela, n'est-ce pas, attention, attention, cela c'est grave. Parce qu'il peut y avoir tout de même, dans ce qu'on appelle, mettons, baptême du Saint-Esprit, peut-être improprement, hein, il peut y avoir tout de même, n'est-ce pas, des manifestations qui soient dues au Saint-Esprit. Il se peut que certaines âmes aient été touchées, reçues une sorte d'onction, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alors, n'allons pas attribuer cela au diable, malgré toute la prudence que nous voulons observer. Le blasphémateur, sous l'empire de la loi de Moïse, était passible de la peine de mort. Et ce sera le principal motif qui sera retenu contre Jésus. Jésus qui accepte de se dire le Fils de Dieu, qui se dit le Fils de Dieu, qui déclare même devant Caïphe que vous verrez désormais le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, et puis assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées. Alors, qu'avons-nous besoin de plus, n'est-ce pas, dira le souverain sacrificateur, il a blasphémé. Alors, nous pouvons le mettre à mort. Ce sera aussi le motif retenu contre Étienne, premier martyr chrétien, sera mis à mort sous le prétexte de blasphème. Ça n'en était pas un. Vous voyez comme il faut tout de même avoir le jugement, un jugement éclairé par le Saint-Esprit et être soi-même dans la lumière pour accuser quelqu'un de blasphème. Parce que Étienne était loin d'être un blasphémateur. C'était au contraire un homme remarquablement rempli du Saint-Esprit, dont tout le monde donnait un bon témoignage, qui avait une parole magnifique, étant donné qu'il était saisi par le Saint-Esprit. Or, Paul, lui, n'était pas blasphémateur au jugement des Juifs. Les Juifs ne le regardaient pas comme un blasphémateur, il était au contraire l'un des leurs. Il leur rendait de grands services dans cette persécution contre l'Église. Mais il sera blasphémateur au jugement de Dieu, et lui-même s'en apercevra plus tard, lorsqu'il sera converti. Il verra que tous les actes auxquels il s'était livré inconsidérément constituaient le blasphème. Il se dit persécuteur et homme violent. À cet égard-là, nous pouvons relire dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 1 à 5. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. » Il persécutait donc Jésus. En persécutant l'Église, c'est Jésus lui-même que l'on persécute, et cela, et n'est-ce pas tout à fait dans la ligne de l'enseignement biblique, étant donné que Christ, nous l'avons déjà fait observer, Christ désigne le corps et la tête, c'est-à-dire l'Église et la personne de Jésus qui ne font qu'un. L'Église, la véritable Église, le corps de Christ et la personne du Seigneur Jésus qui ne font qu'un. Si on persécute les membres, on persécute tout le corps, et l'on persécute par conséquent la tête, n'est-ce pas? Également, c'est Jésus qui est persécuté. Et quand on pense que maintenant, il y a tant de persécutions dans divers pays, dans les pays de l'Est particulièrement, des persécutions toujours vives, violentes, haineuses, et c'est le Christ qui est là persécuté. Ce qui, d'ailleurs, n'empêche pas l'Église d'exister. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'avoir des chiffres, par exemple, sur la Roumanie, avec le pasteur Odoro Atta, qui est un Roumain à Paris, et qui parle à la radio. Je suis allé dans son studio, où il parle, il émet, enfin il prépare des émissions pour la Roumanie, et il a une grande documentation. Nous avons vu sur les 28 millions d'habitants que compte ce pays, nous avons vu, je n'ai plus les chiffres en tête, la proportion qu'il y avait de croyants évangéliques, nous n'avons pris que ceux-là, baptistes, frères et pentecôtistes. Et la proportion m'avait absolument étonné. Elle était importante, bien plus importante que la proportion que nous pouvons calculer pour la France. Bien plus importante. En Russie, il y a aussi des groupes très importants en Russie, dans cette Russie où pourtant l'Évangile a été si gravement persécuté. Eh bien donc, nous voyons que Paul était cet homme violent. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples. Il respirait. Mais c'était en lui, voyez-vous, c'était en lui. C'était son zèle à lui. Il respirait la menace. C'était son zèle. Il ne pouvait pas entendre parler de disciples de Jésus sans tout de suite être prêt, n'est-ce pas, à bondir, à aller les arracher à leur réunion et à les lier pour les mettre en prison. Il respirait. Il a été appelé quelquefois le loup de Benjamin, car il était de la tribu de Benjamin. Le loup de Benjamin. C'était un homme violent. Et alors il rappelle qu'il a obtenu miséricorde. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Parce que j'agissais par ignorance. Voilà quelque chose qu'il faut bien noter au passage. L'ignorance, en effet, de ce que l'on fait contre Dieu laisse toujours subsister la possibilité du pardon. Et nous allons voir quelques textes là. Mais, attention, si l'ignorance n'est plus, si l'homme a été éclairé une fois, alors il n'y a plus d'ignorance, et ce qu'il fera contre Dieu ne pourra plus lui être pardonné. S'agissant, bien entendu, de blasphème, de persécution, de choses évidemment graves, il ne s'agit pas des chutes involontaires de faiblesse qui apparaissent encore au cours de la vie chrétienne, mais des actes et des paroles que l'on ferait ou proférerait volontairement contre Dieu, cela ne pourrait plus être pardonné. Ce serait alors le péché contre le Saint-Esprit. Mais voyons quelques textes. Luc 23, 34. C'est la parole bien connue du Seigneur sur la croix. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voyons maintenant Jean 9, 40 et 41. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? » D'ailleurs, prétends-tu que nous soyons aveugles ? Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, C'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà, n'est-ce pas? Si vous dites que vous voyez, si vous dites que vous êtes éclairé, alors attention, votre péché subsiste. Voyons 15, Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon père. Vous voyez là, n'est-ce pas, nous sentons très bien que Jésus situe leur responsabilité, la responsabilité de ceux de ses contemporains qui refusent le témoignage de ses œuvres et ses paroles. Ils situent leur responsabilité sur le fait qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Il ne faut donc pas retomber dans le blasphème après avoir été éclairé, comme nous l'avons vu, je crois, il y a quelque temps dans l'Épître aux Hébreux, il n'y aurait plus alors de pardon, de miséricorde. Et au verset 14, nous revenons à notre Épître à Timothée, verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » La grâce a surabondé, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais inférieure, même à l'énormité, si vous voulez, d'une vie de péché. Elle n'est jamais insuffisante, inférieure. Il y en a toujours assez pour couvrir entièrement tous les péchés, quels qu'ils soient. Le plus grand pécheur peut toujours trouver assez de grâce, et même plus qu'il n'en faut, pour couvrir ses péchés. Lorsque la grâce de Dieu est donnée, évidemment, par l'amour de Dieu, en réponse à la foi. Vous savez que dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 20, nous avons ce fameux mot d'abondance, abonder, ce verbe abonder. Or, chapitre 5 et verset 20, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, abondé plus que le péché, a surabondé. Pourquoi faut-il que l'offense abonde? Eh bien, tout simplement, c'est parce que il faut que tout soit mis en lumière. Dieu ne veut pas qu'une âme regarde, recèle encore quelque chose de sa responsabilité, de son péché, qui ne soit pas répandu, qui ne soit pas mis à la lumière. La repentance, c'est ça, c'est la mise en lumière du péché, dans sa totalité. Je ne dis pas l'énumération des fautes que nous avons pu commettre dans toute une partie de notre vie, n'est-ce pas? Alors ce serait quelque chose d'impossible, mais ce sont les principes du péché, comme le fait ici l'apôtre Paul. Il était blasphémateur. Voilà, n'est-ce pas, quantité de fautes qui se rattachent à cela. Il était persécuteur. Persécuteur, alors là, il a commis quantité de choses et même s'est rendu coupable de meurtre. Eh bien, c'est cela, surtout, tout doit être mis à la lumière. La loi est là pour dire à l'homme son péché, pour lui montrer son péché, afin que tout sorte, que tout soit mis à la lumière. Tout, absolument tout. Et quand tout a été mis à lumière, quand le péché a abondé, avec toute l'abondance qu'il peut avoir, eh bien, la grâce surabonde. La grâce vient ensevelir tout ça, n'est-ce pas, effacer tout ce péché. Voilà ce que Paul nous dit. C'est une parole certaine, au verset 15, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. La certitude qui domine et à laquelle il importe que tout pécheur s'attache avec foi, cette certitude, il faut que cela devienne une certitude recueillie par la foi, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, eh bien, Paul se regarde, lui, comme le premier des pécheurs, c'est-à-dire le plus grand, non pas le premier dans l'ordre chronologique, mais le plus grand, si jamais mesure il pouvait y avoir, eh bien c'est Paul qui serait vu comme le plus grand. Il se range lui-même à la première place des pécheurs. Personne, en somme, aucun pécheur ne pourrait le surpasser. Pas même le brigand sur la croix, pas même les pharisiens de son temps, qui le mandataient pour persécuter l'Église, et c'est surtout en pensant à eux, qui étaient ses confrères, c'est surtout en pensant à ces gens, n'est-ce pas, et à tout ce qu'il avait fait pour eux, qu'il se dit être le premier des pécheurs. Il voit aujourd'hui la gravité de son péché, l'énormité de son péché, comme dépassant celle de tous les autres. Il avait été le plus méchant, le plus persécuteur de tous. Vous voyez comme l'apôtre accepte ici de s'humilier d'une façon totale. Il s'humilie et il garde avec lui cette cause première d'humiliation, son état de péché d'avant-conversion. Il la garde, cette cause première, tant la grâce qu'il a reçu de Dieu et qu'il l'a sauvé, en devient plus grande, plus magnifique encore, et combien même la gratuité de cette grâce en apparaît encore mieux, n'est-ce pas? Un pécheur, on ne peut pas trouver pire, on ne peut pas trouver pire que lui. Voilà ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? On ne peut pas trouver pire. Eh bien, la grâce a surabondé. Et dans le verset de 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Alors là, nous avons quelque chose de très important, et c'est quelque chose qu'en général, on ne discerne pas beaucoup. C'est que le ministère de l'apôtre Paul est un ministère type, ou si vous voulez, son expérience, disons plutôt son expérience, parce qu'il n'y a pas que son ministère, il y a sa vie de chrétien. Son expérience est une expérience type, voyez-vous, il a obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple. À qui? À ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. À ceux qui croiraient en lui, mais à toute l'Église. Et c'est une chose que l'on, sur quoi, n'est-ce pas, l'on n'attache pas souvent son attention, c'est que l'apôtre Paul a été placé, de par sa conversion, dans une expérience chrétienne qui sert de type. Nous allons voir d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même dans Acte 9. Acte 9, verset 15. Vous savez qu'il y a là un certain Ananias qui fait des observations au Seigneur en lui disant, tu sais, j'ai appris de beaucoup de personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Comment, Seigneur, tu veux vraiment faire grâce à un homme comme ça? C'est lui que tu veux choisir? Ah, Ananias, il en est bouleversé. Et voici ce que Jésus répond, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien, il est évident que de son vivant, l'apôtre Paul, malgré toute l'activité qui fut la sienne, n'a pas pu porter le nom de Jésus devant les nations, devant tellement de nations, devant tellement de rois, et devant les fils d'Israël, dans tous les temps, il n'a pas pu, mais Attention, il devient un écrivain sacré, et c'est par ce ministère particulier d'écrivain sacré qu'il va remplir cette mission que Jésus-Christ lui a dévolue, à savoir de servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui, en Jésus. Servir d'exemple. Et c'est pour ça que Paul peut dire, sans aucun orgueil, « Soyez mes imitateurs ». C'est le Saint-Esprit qui le lui fait dire. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Le Saint-Esprit a voulu en effet qu'après Jésus-Christ, ce soit Paul que l'on connaisse le plus et le mieux. Bien sûr, nous connaissons Pierre. Je dis Pierre, dans les apôtres, c'est celui que nous connaissons le mieux. Mais nous le connaissons essentiellement par les évangiles, c'est-à-dire au cours du ministère terrestre de Jésus, avant la Pentecôte, c'est-à-dire au temps où Pierre commettait bien des erreurs, et elles nous servent noter ces erreurs par les rectifications et qui sont à leur apporter. Mais c'est le temps aussi de son reniement. Après la Pentecôte, Pierre ne restera pas longtemps sur le devant de la scène, il ne restera pas longtemps en lumière, il est question de lui le jour de la Pentecôte, quelque temps après, et puis Pierre disparaît. Et c'est Paul que nous voyons apparaître, et Paul alors qui va écrire, va participer à la rédaction du Nouveau Testament bien plus longuement que Pierre. Et nous connaîtrons de l'apôtre Paul une activité bien plus longue dans le temps et bien plus étendue que concernant Pierre. Paul apporte donc une expérience chrétienne type, parce que si cette expérience n'avait pas eu lieu et si elle ne nous avait pas été entièrement retracée dans le Nouveau Testament, alors nous serions, je l'ai dit déjà cela l'autre jour, nous serions devant cette invitation à imiter le Seigneur Jésus, à marcher comme Jésus a marché lui-même, mais beaucoup pourraient se dire, c'est trop ce qui nous est demandé là. Marcher comme il a marché lui-même, imiter, soyez les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu, c'est trop nous demander cela. Et le Seigneur Jésus a prévenu cette pensée-là et il nous a pris un homme. Il nous a pris un homme qui était lourdement chargé, un persécuteur. Voilà, le premier des pécheurs. Bon, et puis cet homme-là, eh bien, bon, sur la route de Damas, le voici par terre, aveugle. Et c'est lui que le Seigneur va amener à la conversion, et c'est lui qui va entrer dans l'exercice d'un ministère, surtout destiné aux païens, un ministère glorieux. Et le Saint-Esprit a voulu donc que nous connaissions cet apôtre Paul, que l'on appelle apôtre, l'auteur le plus prolixe du Nouveau Testament, et de lui nous connaissons sa conversion, nous connaissons les fruits de son ministère, nous connaissons son origine, rien ne nous est caché, nous connaissons sa vie, connaissons son caractère, nous connaissons son dépouillement, son désintéressement, la nature des mobiles qui l'ont guidé, et nous nous apercevons, si nous réfléchissons à tout ça, si nous lisons, relisons, comme on doit le faire avec l'Écriture, nous nous apercevons que tout est chrétien véritablement en lui. Tout est chrétien en lui, tout est chrétien dans sa vie. Les sentiments, nous pouvons connaître, nous pouvons même les analyser, les tristesses, les joies, les espérances, tout est véritablement chrétien. A-t-il certaines volontés? Ses volontés, il sait les soumettre à Dieu. A-t-il des pensées? Ses pensées, il les laisse devant le Saint-Esprit, les porte devant le Saint-Esprit, et il les porte à la lumière du Seigneur. Si bien que dans la vie, parce qu'il y a la vie est très mêlée au ministère de l'apôtre Paul. Si bien que les lettres qui sont devenues certaines, pas toutes absolument, mais celles des lettres de l'apôtre Paul qui sont devenues canoniques et qui par conséquent composent le Nouveau Testament, eh bien, lui ont servi à faire des petites commissions. Quand il dira par exemple, eh bien, apporte-moi le manteau que j'ai laissé là-bas et les quelques livres, hein. Mais tout cela a sa valeur. Tout cela est intéressant parce que nous connaissons la vie de l'apôtre Paul. Nous les voyons faiseurs de tentes. Nous le voyons dans l'indigence. Nous le voyons aussi dans l'abondance, comme il dit, n'est-ce pas? Quelquefois, il est dans l'abondance. Enfin, nous connaissons sa vie et nous voyons combien sa vie et son ministère s'imbriquent, sont imbriqués l'un dans l'autre. Tout est pénétré et transformé par l'Évangile. Voilà ce que nous constatons. Tout en exhale le merveilleux parfum, tout en reflète la lumière, tout en manifeste la puissance dans sa prison, dans une prison, là où il est enfermé. Eh bien, il peut dire, je suis enfermé, je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et de là, il va remplir encore son ministère d'apôtre, écrire à des églises, et sa parole aura de l'autorité, partant d'un homme qui est en prison. Rendez-vous compte, n'est-ce pas? Un homme qui est en prison, et par conséquent, ceux à qui il s'adresse, ou les chrétiens en général qui le connaissaient, pouvaient se dire, mais comment notre apôtre, celui qui nous enseigne, celui qui a fondé nos églises, le voilà en prison, le Seigneur ne l'a pas préservé de cela, il n'a pas fait comme pour Pierre, le délivrer de sa prison, il n'a pas envoyé son ange. Eh bien non, n'est-ce pas, tout cela, nous le voyons et nous pouvons en retirer la conclusion que dans la vie de Paul, dans l'exercice de son ministère, tout manifeste vraiment l'Évangile et la puissance de l'Évangile, indépendamment des circonstances extérieures. Et puis, sa doctrine est véritablement en accord avec son expérience personnelle, son expérience chrétienne. Sa doctrine est le prolongement de son expérience. Quand il expose la doctrine, il s'y met de temps en temps. Il y mêle de temps à autre des aperçus de sa propre expérience. Parce que la doctrine, c'est pas une doctrine théorique qu'il prêche. C'est une doctrine qui se ressent de sa propre expérience et de la fidélité qu'il apporte lui-même à Jésus-Christ. Alors, voilà, n'est-ce pas, pourquoi il dit ici dans cette épître à Timothée, qui, je le rappelle, a été écrite à la fin de sa vie, que Jésus-Christ l'a suscité et l'a converti pour faire voir en lui le premier. C'est en effet, n'est-ce pas, lui le premier qui vit vraiment l'Évangile, qui vit l'Évangile, c'est lui le premier. Faire voir en lui le premier toute la longanimité de Jésus. Et Dieu, Jésus a voulu qu'il serve d'exemple à tous ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, c'est-à-dire à toute l'Église. À toute l'Église. Voyez, c'est un ministère particulier que celui de l'apôtre Paul. Pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. Et cela, il le dit du fond d'un cachot. Jésus, véritablement, a fait de cet homme un exemple. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, Bien à tort, certains petits critiques, j'ai entendu cela quelquefois, vous reprocherez de trop parler de l'apôtre Paul. Quelqu'un disait une fois, ah ben oui, mais on en arrive à prêcher l'apôtre Paul plus que Jésus-Christ. Mon long, donc. Il ne comprenait rien, n'est-ce pas, au fait que si nous montrons l'apôtre Paul autant que nous le pouvons par le moyen de ses épîtres, et même du livre des Actes, eh bien, c'est parce que il y a là, dans l'expérience de cet homme, qu'il s'appelle Paul ou autrement, ça n'a pas d'importance, mais il y a là une expérience type que Jésus-Christ, précisément, place sous nos yeux. Et Jésus-Christ nous dit ainsi, voyez-vous, ça, c'était un homme que j'ai pris au milieu des pécheurs, j'ai même pris le plus grand des pécheurs. Bon, alors vous voyez ce qu'il a fait. Alors et vous, ne pouvez-vous pas le faire aussi ? C'est un homme qui l'a fait. Vous voyez que entre moi, votre Seigneur, entre moi, Jésus-Christ, et vous, eh bien, il y a place pour un ministère type, un ministère sur lequel vous pouvez rendre exemple. Et l'apôtre Paul, de terminer ici, au roi des siècles, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, n'est-ce pas? Il vient de prononcer vraiment quelque chose de capital, vous voyez, d'important. Il a pu dire, n'est-ce pas? Et c'est pour nous qu'il l'a dit aussi, cela, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle belle parole, n'est-ce pas? Quelle parole magnifique! Nous avions besoin que quelqu'un fasse cette expérience-là dès le début de l'Église, dès la naissance de l'Église, peu de temps après la fondation de l'Église. Nous avions besoin que quelqu'un nous dise cela. Et c'est tellement magnifique ce qu'il dit là qu'il termine en rendant grâce au roi du siècle immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.